Et donc c'est l'heure de la table ronde.
Voilà, donc juste on précise, animé par Benoît Bazirico, avec en partenariat avec le site cinésique.fr. Donc vous allez avoir Lisa Chevalier et Erwan Chandon qui sont donc les compositeurs. Et on a un petit jingle avant cette table ronde.
La table ronde de chant contre chant, une exclusivité de générique.
Bonjour, bonjour, je suis Benoît Bazirico, nous sommes donc à Angers au festival Chant contre Chant. Je suis journaliste cinéma spécialisé de musique de film qui dirige le site Cinésique. Cinésique qui est donc partenaire du festival, festival mené de main de maître par Yves Maguin, et donc on a le plaisir d'être accueillis à l'université d'Angers au 4, que vous connaissez je pense si vous êtes angevin, et on a donc le plaisir d'accueillir Erwan Chandon et Lisa Chevalier pour parler de musique de film, pour aborder toutes les questions, tous les enjeux qui se posent pour travailler la musique pour un film. Lisa Chevalier, qui a eu un cursus de pianiste, qui a ensuite approfondi au conservatoire à Lyon ses connaissances en cinéma et en musique de film, et qui a reçu le prix Cinésique justement pour un court-métrage, La beauté du geste, au Festival de Marseille l'année dernière. Erwan Chandon, qui donc vient aussi du court-métrage, et vient aussi de Lyon, c'est un hasard, au conservatoire et au MAV, qui est un master de musique appliquée aux arts visuels, qui a fait des courts-métrages de 2011 à 2018, avant, dès 2018, de passer au long-métrage, comme on dit, avec un premier long-métrage, Une année polaire. Et Erwan Chandon fait partie aujourd'hui des compositeurs incontournables dans le long-métrage, qui fait chaque année des films, et notamment le dernier, c'est Chasse gardée, la comédie sur les chasseurs, que vous avez peut-être, vous en avez entendu parler, qui est sorti il y a quelques mois. Pour commencer, première question, Erwan, Lisa, est-ce que être compositeur, compositrice de musique de film est une vocation? Est-ce que c'est un désir que vous aviez de longue date et vous avez tout planifié votre parcours de formation pour parvenir à faire ce métier? Ou alors c'est un hasard de rencontre et vous considérez d'abord comme compositeur et que ce sont des rencontres qui ont fait de vous un compositeur, compositrice de musique de film?
Oui, donc pour ma part, c'était vraiment une vocation de longue date. En fait, depuis que je suis enfant, j'étais très cinéphile, je suis toujours très cinéphile et je regardais beaucoup de films, mais j'étais pas du tout issue d'une famille forcément qui faisait de la musique professionnellement. Je ne savais pas en fait qu'il existait des formations pour devenir vraiment compositrice de musique de film. Je connaissais très peu de choses en fait sur les formations de musique professionnelle. Donc j'ai toujours voulu faire ça et en fait j'en faisais de mon côté toute seule déjà avec mon piano. J'improvisais beaucoup sur des courts-métrages et je me suis beaucoup intéressée au cinéma. Donc je suis rentrée au lycée en fait dans une classe de cinéma et c'est en parlant avec mon professeur qui m'a un petit peu ouvert sur le fait que c'était possible de m'orienter encore dans la musique de film. Et là je me suis vraiment renseignée, en plus c'était l'approche de l'après-bac, donc tout le monde se pose un peu la question de qu'est-ce qu'on va faire. Et je me suis renseignée et je suis tombée sur des formations comme à Annecy ou à Lyon, celles que j'ai fait. Et du coup, j'ai foncé et j'y suis allée à fond. Donc oui, c'était déjà une vocation depuis le début.
Et dans cette vocation, il y a des goûts musicaux, des goûts... et je crois que Tim Burton fait partie des références.
Ouais, exactement. En fait, au moment où Tim Burton sortait L'étrange Noël de Mr. Jack, à ce moment-là, j'étais... très jeune et du coup je pouvais pas voir le film parce qu'il y a quand même des choses un peu il y a des squelettes et tout ça et du coup j'avais pu écouter que la musique avant de voir le film en fait et la musique m'avait vraiment emportée. En fait j'avais été étonnée de combien d'émotions j'avais pu ressentir en écoutant la musique et à quel point elle m'avait projeté vraiment un imaginaire en fait mental très riche et j'avais pas encore vu d'image du film et déjà ça m'avait provoqué en fait vraiment un intérêt particulier et quand j'ai découvert le film plus tard, ça a tout a pris sens et du coup oui, pour moi ça a été vraiment un déclic en fait.
Et Erwan?
Moi ça, la musique de film ça a longtemps été un doux rêve à l'adolescence. Moi j'étais batteur dans des groupes de métal, absolument rien à voir, sauf que je nourrissais une fascination pour les compositeurs de musique de film et j'écoutais que ça. J'écoutais énormément de John Williams, Danny Elfman, James Horner. Et pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible, n'ayant pas eu la formation au conservatoire. Je savais à peine lire la musique, j'étais en fac de musicologie, mais l'orchestre était quelque chose que j'écoutais mais qui était totalement inaccessible. Et petit à petit, en composant des choses sur des logiciels comme ça, juste à l'oreille, en reproduisant des musiques que j'aimais bien, je me suis aperçu que ça faisait un peu la blague. Et donc je me suis moi aussi renseigné sur les formations qui pouvaient être professionnalisantes, sans y croire du tout, hein, mais en disant bon bah allez, je suis pas plus bête qu'un autre a priori et je peux peut-être le faire. Donc j'ai postulé au MAV, un master pro de musique appliquée aux arts visuels à Lyon. C'est là que j'ai rencontré des étudiants réalisateurs qui avaient chacun leur petit court métrage d'animation à faire pour leur film de fin d'études et que j'ai commencé à mettre de la musique, ma musique, mais qui passait pas par des partitions, c'était toujours des instruments virtuels. Donc j'ai commencé à composer sur des films et à rencontrer des réalisateurs. Et là, j'ai une espèce de révélation de comprendre que je pouvais raconter des histoires avec ma musique en collaboration avec un réalisateur. Et je me suis dit, de fil en aiguille, pourquoi pas réussir à en faire vraiment mon métier. Dans un premier temps, des courts-métrages, des documentaires, des publicités, des moyens-métrages, et puis longs-métrages. C'est arrivé petit à petit sur 12 ans quand même, c'est assez long à faire. Mais ça vient d'une fascination, ça vient d'un doux rêve lointain qui est devenu petit à petit réalité.
Et donc il y a un rêve d'amour de cinéphile, de mélomane, et du rêve à la réalité. Donc il y a ensuite, on se confronte évidemment à des rencontres et on se confronte à des contraintes. Quel est votre regard sur les contraintes ? Parce qu'évidemment, vous faites pas votre musique. Vous faites une musique pour un film, pour les désirs d'un ou d'une cinéaste. Qu'est-ce que pour vous la contrainte que vous aviez pas forcément anticipée ?
J'avoue, j'ai très peu pensé ça comme des contraintes. Justement, ce qui m'intéresse beaucoup dans le rapport entre la musique et l'image, c'est toute la discussion qu'il y a en fait sur un projet, d'intégrer vraiment l'univers d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Je cherche toujours à faire la musique vraiment pour le film et à comprendre pour le film. Donc, j'ai jamais vraiment pris ça comme des contraintes personnellement. Voilà, je pense.
Et moi, j'ai un peu la démarche inverse. C'est-à-dire que j'estime, il y a un type de musique que j'aime faire et qu'avec les années j'ai appris à développer et on appelle ça un style ou une identité. Je ne sais pas si j'ai une identité, en tout cas je sais ce que j'aime faire. Et avec les années, ça fait 6 ou 7 ans que j'ai commencé à faire du long métrage, j'essaie de faire en sorte qu'on m'appelle pour ce que j'aime faire. Donc là notamment, on en parlait tout à l'heure, quand je rencontre des réalisateurs, je leur demande déjà, enfin, pourquoi ils m'appellent sur leur film ? Est-ce qu'ils ont entendu des choses que j'ai composées avant ? Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on leur conseille des compositeurs. On se rencontre un peu, ils ne savent pas trop pourquoi. Je leur dis, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez ça comme musique ? Parce que moi, je fais ça et je ne fais pas autre chose. Par contre, ça, si vous voulez le prendre, on va pouvoir développer ce vocabulaire ensemble. Donc, en effet, j'évite cette contrainte-là par le choix en fait, des projets pour lesquels on me demande de composer une musique que j'aime.
Ouais, c'est le juste équilibre entre la capacité de s'adapter, mais aussi un désir de musicien de proposer telle ou telle musique qui vous corresponde, en quelque sorte. Et donc, c'est bien, vous êtes parvenu, en quelque sorte, mais évidemment, il y a eu forcément des projets que vous avez renoncé parce que ça ne correspondait pas, voilà, à ce que vous pouviez proposer. Quelles ont été, pour vous deux, la rencontre déterminante ?
Alors, pour moi, ça a été de rencontrer le réalisateur Marc Robinet qui a fait le film Opération Père Noël, donc produit par Folimage. Et en fait, ça a été ma première expérience professionnelle à l'époque. Il m'a contactée quand j'étais encore en études à Annecy, donc c'était en 2014-2015. Et pour moi, c'est, comme Folimage, je connaissais les films qu'ils avaient faits, qui avaient aussi bercé mon enfance. Du coup, ça a été vraiment énorme. Et avec Marc, ça s'est très bien passé. Il est très à l'écoute. On a pu vraiment avancer. Il m'a fait visiter les locaux de Folimage. Il m'a montré aussi comment se réaliser un projet d'animation. Donc, il m'a montré les calques avec les décors, les personnages. Donc, c'était hyper enrichissant. J'ai pu voir toute l'autre facette, en fait, celle qu'on voit très rarement quand on compose. Et donc, pour moi, ça a été vraiment superbe. Et c'était aussi mon premier projet pour orchestre où on a eu l'opportunité d'enregistrer un orchestre de solistes. Donc voilà, c'était vraiment l'idéal en fait comme première expérience professionnelle. Bon après bien sûr ça s'est concrétisé plus tard parce qu'entre temps c'est toujours long déjà d'écrire un film, de le concrétiser et encore plus de l'animation. Et ensuite il y a eu le Covid qui est passé par là, donc forcément voilà, ça a pas mal retardé. Mais ça a été en tout cas une très belle rencontre.
Eh ben, cette discussion va être illustrée. Eh bien, je saisis, on va dire, les propos sur ce film Opération Père Noël. Donc, c'est un court-métrage de 2021, court-métrage d'animation. Écoutons deux extraits à la suite et on commente après. On va commencer par l'ouverture.
Ah, j'oubliais. Monsieur a laissé une surprise pour vous au salon.
Ouais, c'est mon déguisement.
William, la tempête a arraché des arbres dans le parc.
Ouais, ouais. Tiens, prends ça.
Ah. Il n'y a rien qui me donne plus de magie. Un enfant qui grandit.
Lisa Chevalier. Et puis comme ça, les auditeurs peuvent confirmer qu'il y a, on confirme qu'il y a bien un public. Et donc court métrage d'animation, musique donc de Lisa Chevalier. On entend, c'est orchestral pour cette forme de court métrage. Il n'y a pas forcément beaucoup de budget souvent et un orchestre. On sait que ça coûte de l'argent. Comment ça s'est produit?
Oui, donc effectivement, c'était une grande question parce que donc Marc, le réalisateur, voulait vraiment, avait cette idée de très grand orchestre symphonique. Il me parlait de, beaucoup de John Williams, de Danny Elfman comme compositeur. Et on est malheureusement contraint à des restrictions budgétaires. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un orchestre de solistes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un seul instrumentiste par instrument. Donc par exemple, au lieu qu'il y ait 10 violons, il n'y en avait qu'un seul, au lieu qu'il y ait quatre contrebasses, on n'avait qu'une, voilà, etc., pour tous les instruments de l'orchestre. Et en fait, on a, donc moi, j'ai divisé chacune de mes partitions en deux. En fait, on a enregistré l'une sur l'autre, les deux parties, pour multiplier, en fait, les prises. Et ensuite, derrière, j'ai rajouté donc, des maquettes, donc des instruments virtuels, pour rapporter, en fait, cette notion de masse sonore. Pour qu'on ait vraiment l'impression que ce soit un orchestre qui soit beaucoup plus large. Donc voilà. Et puis on a tout fait dans un temps très serré par rapport au travail qu'il y avait. Idem par rapport au budget, on était obligés. Mais ça s'est très bien passé. On a travaillé à fond. Et puis, voilà.
Magnifique. Et dans l'animation, par rapport à un film en images réelles, qu'est-ce qui change pour un compositeur, une compositrice? Est-ce que par exemple, on parle souvent d'animatique? C'est-à-dire que composer sur des images non encore montées?
Oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, je suis arrivée très tôt dans le projet. Donc, c'était encore au moment où le scénario était en cours d'écriture. Donc, ce qui a permis qu'en fait, les thèmes principaux, donc là, le thème du monde de Noël, où il y avait aussi le thème du chasseur, que j'ai pu écrire très en amont. Et en fait, beaucoup d'animations ont été faites avec les musiques déjà. Et on a aussi fait beaucoup d'allers-retours en fait au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que ça change. La place musicale change aussi dans les films d'animation. Là, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en fait, on parle de Noël, mais à aucun moment on est vraiment dans le monde de Noël. On voit jamais le monde où il y a le Père Noël, les lutins, la fabrique des cadeaux, mais il est toujours, par contre, pensé en arrière-plan. Et en fait, la musique était là pour illustrer ce monde qu'on ne voit pas, mais qui est tout le temps dans le film. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai utilisé tous les éléments qui me faisaient penser le rythme pour les galops des rennes, les clochettes et tout ça, des petits, des petites beats très minutieux aux cordes pour les lutins qui s'actionnent en travaillant. Donc j'essaie de représenter en fait de manière sonore un monde qu'on imagine dans le film.
Très bien. Alors Erwan, tu as aussi travaillé sur des courts-métrages d'animation et notamment Burnout, sur une mécanicienne astronaute qui est tombée en panne sur une planète déserte. On pourra parler de ce film-là. Alors l'animation, pour toi, comment tu le conçois en tant que compositeur? C'est différent des images réelles?
Non, pas vraiment pour moi, parce que comme je l'ai dit précédemment, j'ai un type de musique que j'aime bien composer, et c'est une musique qui est tout à fait adaptée pour le cinéma d'animation, comme pour le cinéma en prise de vue réelle, si tant est que le film puisse accueillir une musique telle que celle-là, c'est-à-dire que ça se pense dès la mise en scène, laisser la place à la musique, parce que en général c'est quand même des orchestres assez volumineux et des thèmes musicaux mélodiques qui sont assez présents dans l'histoire. Mais par exemple pour Chasse gardée, c'est quasiment une musique de cartoon. D'ailleurs, ça faisait partie des envies des réalisateurs de souligner des gestes à la manière d'un film d'animation. Donc, j'ai pas vraiment de différence de traitement musical entre l'animation et le prise de vue réel.
C'est vrai. Et même pour Quand on crie au loup de Marie-Lou Berry, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le Mickey Mousing. C'est-à-dire que cette synchronisation à des mouvements dans l'image, hein, qui provient du film d'animation. Alors, regardons deux extraits de Burnout. Et le premier, où il y a ce type de synchronisation.
I know. I love your spacesuit. What happens if I push this button?
Oh. Little bear? What are you doing here? Ouch! Sirius Academy. I forgot about that.
Come on. Let me show you my rocket.
Oh, battery crystals.
How's it feel to be a space explorer? You must have seen amazing things. Oh, once your ship starts working, will you take me to Sirius?
I'm not going to Sirius.
Et voilà, donc là on peut applaudir Erwan Chandon. Musique du court-métrage Burnout, et là je vais faire un grand bond en avant, parce que de Burnout à Chasse gardée, on retrouve en effet un style Erwan Chandon. Ce style, donc on l'entend, c'est de l'orchestre, mais c'est de la féerie. Il y a quelque chose, voilà, de féerique, et il y a une couleur qui est vraiment collée à l'image, qu'on a vraiment un travail de dentelle, presque de chorégraphique par rapport au mouvement de l'image. Il y a la grande question en musique de film, c'est à quel moment intervient un compositeur? Est-ce qu'il intervient sur le scénario, sur le montage? J'ai l'impression que toi, tu as besoin de l'image.
Ah oui, je m'appuie vraiment sur l'image. J'en ai besoin, ça me nourrit. Par exemple, un des films sur lesquels j'ai eu la possibilité de composer pour la première fois, vraiment dans ce style-là, qui s'appelle La dernière vie de Simon, je suis arrivé sur le scénario et donc il n'y avait pas encore les images. Et avec Léo, le réalisateur, on avait tout de suite eu une connivence artistique, esthétique. Donc j'ai fait des musiques comme s'il y avait de l'image, avec des creux, des bosses, des stops, comme si c'était déjà composé pour une image qui existait. Et à partir de là, alors je dis pas qu'il a monté son film sur ses musiques, mais en tout cas il s'en est beaucoup inspiré. Et après j'ai eu juste, entre guillemets, à les adapter sur l'image. Mais on avait déjà trouvé l'esthétique et toute la couleur musicale du film.
Alors le côté merveilleux dans La dernière vie de Simon, qui est un film qui mélange le drame, le deuil et la science-fiction, le fantastique, puisque c'est l'histoire d'un jeune orphelin, Simon, qui a un pouvoir, celui de prendre l'apparence des personnes qu'il a touchées. Et un jour, son meilleur ami meurt dans un accident et il décide de prendre son apparence. Donc c'était un film très très beau, 2019, premier film de Leo Carman. Donc là, comme on vient de l'entendre, tu es intervenu très tôt sur le projet. Et donc le réalisateur avait besoin de matière, c'est ça, pour travailler, j'ai l'impression. On va écouter un extrait de cette musique dans le registre du merveilleux, puis on en parle juste après.
Ce que je vais vous montrer, je vais jamais montrer à personne.
C'est quoi ?
Il faut me promettre qu'après ça, je deviendrai votre frère de sang, même si vous trouvez ça bizarre.
On promet. On promet. Vas-y, refais pour voir. Mais tu peux te transformer en n'importe qui, genre le président de la République.
Non, juste ceux que j'ai déjà touchés. Ça vous fait pas peur?
Mais non, tu rigoles, c'est génial.
Et regardez. C'est parti quand j'ai changé mon corps.
Attends, mais ça veut dire que t'es immortel.
Je sais pas, peut-être.
Mais faut quand même faire croire que tu t'es coupé. Sinon, les gens, ils croiront pas qu'on est frères de sang.
Et tu peux te transformer, genre, en animal ou en fougère?
Je sais pas, je crois pas. J'ai jamais essayé.
T'es en train d'essayer?
Ouais, ça a pas l'air de marcher.
Mais tu peux refaire encore en quelqu'un.
Voilà, très beau moment musical dans ce film. Voilà, très beau film. Donc on entend ce registre du merveilleux. Le réalisateur était en demande de cela. Est-ce qu'il avait des références précises ou alors il y a une carte blanche?
On était vraiment là pour le coup frère de sang. Non, mais, franchement, là, je raconte l'anecdote vite fait, comment on s'est rencontrés. Alors, il se trouve que Léo, c'était mon voisin de palier. J'aménage dans l'appartement et je vois que donc il y a mon voisin qui galère à monter son canapé. Il avait commandé un canapé, il galère. Donc j'ai dit, je passe la tête par la fenêtre. Est-ce que je peux t'aider à le monter? Allez, on le monte ensemble. On pose son canapé, on se débouche une bière. Et il y a son téléphone qui sonne et ça fait tout 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 tout. Rencontre du troisième type.
John Williams.
Ah là là, d'accord, on va s'entendre. Et là, on a d'abord été amis. Il avait son projet de film, mais bon, c'était lointain. Il a mis 7 ans à se faire le film. Donc on a d'abord été amis et on se faisait écouter plein de trucs, notamment de John Williams. On a maté beaucoup de Spielberg ensemble parce qu'on avait vraiment cette connivence. Donc quand il s'est agi de travailler sur le film, en fait tout coulait de source. Et là pour cette scène en particulier, c'est très précieux d'avoir un réalisateur comme Léo, parce que sous l'apparente légèreté de la scène où les enfants ont leur légèreté, leur candeur, ils rigolent, même si bon, il se passe des choses quand même un peu bizarres. Mais on a rigolé ensemble quand il y a des choses comiques, mais il voulait à tout prix rester connecté à une tendresse, parce que là ce que fait Simon, c'est la première fois qu'il le fait, c'est la première fois qu'il révèle son pouvoir, et c'est dans le film, c'est le pouvoir qui va le mener à sa perte, désolé pour le spoiler, mais il voulait pas du tout qu'on soit connecté à quelque chose de trop léger. Il voulait qu'il y ait beaucoup de tendresse et qu'il y ait déjà une annonce de quelque chose qui est pas si léger que ça. Donc il fallait trouver le juste équilibre entre quelque chose de léger et de merveilleux, mais quand même avec un petit fond de quelque chose, surtout rester profond dans le ton en fait, pas trop léger, mais avec un brin de nostalgie et de tendresse.
Le juste équilibre, encore une fois, ce merveilleux. Il y a toujours aussi la question du point de vue à adopter. Et là, en fait, on est du point de vue de ces jeunes garçons et filles qui regardent le don de leur ami. Donc, on est un peu aussi dans leur regard émerveillé à ce moment-là. Et il y a aussi ce jeu d'équilibre entre ce merveilleux et la gravité, le deuil dont il est question dans le film. Et là, je me tourne vers Lisa Chevalier, parce qu'il y a un film auquel ça me fait penser, ce qu'on vient d'évoquer, c'est La beauté du geste. Dans La beauté du geste, court-métrage de Cyril Carbone, il est question d'une opératrice téléphonique dans un centre de prévention au suicide qui reconnaît un jour la voix d'une de ses ex dont la détermination à en finir se heurte au sentiment de leur retrouvaille. Elle est aussi professeure de tir à l'arc. Donc on a à la fois toute cette imagerie liée au tir à l'arc qui peut évoquer une imagerie de film d'aventure et de l'autre côté ce suicide qui est la trame du film. Une idée d'équilibre. L'idée c'est de ne pas alourdir le film, de ne pas appuyer le suicide. Comment ça s'est passé sur... Dès qu'on t'a dit, Lisa, voilà, mon film parle du suicide, comment tu as abordé la question?
Oui, alors c'est vrai que quand j'ai découvert le dossier du film, donc le suicide, je trouvais que c'était un sujet très important à aborder et en même temps très périlleux aussi, c'est le cas de le dire. Mais en fait, je me suis dit, comment chercher à la musique quelque chose qu'on ne voit pas et qui pourra en même temps... ne pas alourdir justement le thème. Et j'ai pensé au fait que en fait tout au long du film on a donc ces deux amies là et l'une qui prévoit de se suicider, et en fait c'était comme un souffle. En fait, je voyais le film comme un seul souffle et à la fin on sait pas si ce souffle s'éteint ou s'il continue. Et pour ça j'ai imaginé du coup utiliser des flûtes, un ensemble de flûtes qui sont tout le temps en train de jouer. Donc j'ai beaucoup joué entre à la flûte on peut faire des sons où c'est vraiment que du souffle, ou du souffle et un petit peu des notes, ou alors que des notes. Et j'ai beaucoup joué là-dessus en fait pour pouvoir faire vivre comme ça un souffle, le faire respirer, et on ne sait pas à quel moment il va s'éteindre. Et du coup pendant tout le film on est un peu sur cet équilibre là et en même temps donc j'ai utilisé toutes les panels de flûtes. Il y a des flûtes alto, des flûtes traversières, des flûtes basses, pour donner du coffre à ce souffle en fait qui grossit au fur et à mesure que le film avance.
Bah écoutons ce souffle justement dans La beauté du geste. Voilà, un moment gore dans ce film, mais c'est dans son imaginaire, dans son imagination, comme si elle culpabilisait un peu du suicide possible de son ami, et on entend ce souffle. Dans la musique de film, il y a à la fois, on y viendra avec Erwan d'ailleurs, ce travail de mélodie, mais où il y a aussi ce travail de couleur, de timbre, proche d'une matière en fait. Lisa Chevalier, est-ce que vous êtes un peu entre les deux, mélodie et timbre et couleur?
Oui, c'est vrai. En fait, je fais beaucoup de musique mixte, donc ça veut dire je mélange les sons électroniques, les sons que j'enregistre et que je transforme avec des sons acoustiques, donc d'instruments. Et des fois, il y a des films ou des dossiers où, en fait, en les lisant, il y a une matière qui me vient en tête, je trouve, parce que soit elle est présente souvent dans le film, ça peut être de l'eau, par exemple, ça peut être du souffle, ça peut être quelque chose de terrestre. Et souvent, ça va aussi être une inspiration pour moi pour commencer le travail. Et parfois, je peux passer du temps à enregistrer, par exemple, juste des bruits d'eau comme ça, et puis à voir où est-ce que ça peut mener en essayant de transformer ces sons-là. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé avec ce film. Cette scène, elle est assez particulière parce qu'en fait, tout le film est quand même très réaliste. Et il y a cette scène de cauchemar. Et où là, donc le but, c'était vraiment comment faire une musique horrifique qu'avec des flûtes. Donc c'était un peu l'enjeu, parce que bon, on n'imagine pas forcément des flûtes dans des films d'horreur. Et donc voilà.
Oui, dans le choix d'instruments, il y a aussi la capacité de parfois de faire comprendre à un réalisateur ou à une réalisatrice que derrière les instruments, il y a aussi la manière de l'intégrer dans une composition. Elle peut sortir de son emploi habituel. Donc la flûte, là, c'est vrai qu'on l'entend rarement comme cela. Et il y a d'autres, voilà, au niveau du piano, de la guitare ou même des cordes, cette manière d'amener l'instrument ailleurs. Comment on discute avec un réalisateur qui ne comprend pas la musique pour le faire comprendre ça?
Alors c'est vrai que c'est plus abstrait du coup de parler de sons qui sont beaucoup utilisés en musique contemporaine par ailleurs, mais c'est beaucoup plus abstrait parce qu'effectivement il faudrait le montrer, en fait il faudrait le faire écouter, il faudrait que j'amène une flûtiste et que je lui dise bah vas-y, est-ce que tu peux, et c'est vrai que sans c'est difficile, donc en fait comme j'ai vraiment l'habitude d'enregistrer des instrumentistes en train de faire des effets un petit peu étranges comme ça, souvent je les garde et je les organise dans des banques de sons que j'ai, donc une banque personnelle avec plein d'effets en fait, de plein d'instruments différents, et comme ça quand j'ai besoin de faire écouter une maquette ou de donner une idée à un réalisateur ou une réalisatrice, du coup j'utilise ces sons-là que j'ai déjà en lui disant bah voilà, ce sera dans cet aspect-là, peut-être un peu plus comme ci, comme ça, mais en tout cas ça lui donne déjà une base pour imaginer.
Et c'est vrai qu'il y a autant de compositeurs, de compositrices de musique de film que de personnalités, hein. Et est-ce que je me trompe si je dis qu'Erwan Chandon, vous êtes dans une totale autre méthode, autre dispositif, moins dans la texture et plus justement dans le développement harmonique et mélodique?
Absolument, je suis absolument nul pour trouver des textures inouïes. Je j'ai pas cette imagination. Je crois qu'à un moment, ça devait être autour de 2016-2017, je répondais à plein de commandes différentes pour des courts-métrages, des documentaires, et je faisais un peu plein de styles de musique différents. Je suis batteur à la base, guitariste, un peu plein de choses, donc je pouvais pasticher plein de styles. Et ça commençait à m'ennuyer un peu. Je me disais, mais qui suis-je, en fait? Donc je me suis demandé, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire ce métier-là? Et la réponse, c'était l'orchestre. C'était les grands thèmes des films des années 80. Enfin, moi, je suis né en 85, j'ai grandi avec Retour vers le futur, E.T. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus faire de texture, ne plus faire d'électro, ne plus faire de musique actuelle, mais me concentrer à 100% sur l'orchestre et d'essayer de le faire le mieux que je pouvais. Donc, avec cette décision, j'ai laissé de côté beaucoup de choses, en effet, qui sont hyper intéressantes à travailler, les sons enregistrés. Mais j'ai appris par ailleurs à développer tout ce qui est harmonique et mélodique et orchestration.
Et c'est pas une différence de compétence, parce que, comme je le disais, ils viennent de la même école. C'est juste un désir différent de faire des choses différemment. Et il y a donc différentes personnalités. Mais il y a un point commun entre vous deux, enfin entre tous les compositeurs, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit mélodique ou texture, dans les deux cas, on passe par l'ordinateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande des maquettes. Est-ce que vous pouvez expliquer déjà qu'est-ce qu'une maquette? Un brouillon?
C'est-à-dire qu'on passe par un logiciel qui émule chaque, enfin je parle pour moi, du coup pour l'orchestre, qui émule chaque instrument un par un. Donc on va avoir un son de flûte, un son de clarinette, un son de hautbois, un son de corde, un son de trombone et tous les instruments ainsi de suite qui ont été enregistrés sur des vrais instrumentistes, chaque note une par une et chaque mode de jeu dans chaque dynamique. Donc c'est des banques de sons qui sont énormes et nous on peut les rejouer grâce à un clavier MIDI. Donc avec ça, on compose chaque voix une par une comme sur une partition. Donc on joue la voix de flûte et toutes les doublures aux cordes et les percussions ainsi de suite. C'est assez long à faire si on veut que ça sonne réaliste, mais au final ça donne quand même un aperçu assez fidèle à ce que ce sera enregistré à l'orchestre. D'ailleurs, tant et si bien que parfois les maquettes sont si bien faites que les producteurs avec des dollars dans les yeux font mais en fait pas besoin d'enregistrer l'orchestre, elles sont très bien tes maquettes. C'est là qu'il faut rester très très vigilant, parce qu'on compose pas pour ordinateur, on compose pour des vrais instrumentistes qui sont là et qui vont donner vie à la musique. Mais ça fait toute une partie du travail, parce que avec les maquettes viennent toute la possibilité de modifier, c'est-à-dire une V1 où on propose quelque chose à partir on s'est mis d'accord avec le réalisateur. C'est rarement one shot, il y a toujours des petites choses à corriger. Ce qui est pratique avec les logiciels, c'est qu'on peut décaler les choses, enlever un instrument pour arriver au morceau parfait où le réalisateur dit au bout de la V15, c'est bon, c'est ce morceau-là qui est parfait, et après on fait les partitions et on va enregistrer. Ça donne une flexibilité. Alors c'est bien ou c'est pas bien, parce que ça, du coup un réalisateur un peu indécis peut avoir envie d'écouter, ah mais si on enlève cet instrument, fais-moi une V10 juste en décalant ça. C'est là qu'il faut mettre un peu des barrières des fois, parce que la flexibilité donne des fois des choses qui peuvent s'étendre très longtemps.
Ouais, trop de capacité, c'est-à-dire qu'on n'est plus du temps où le compositeur devait faire son thème au piano et le réalisateur imaginait ce que ça allait donner, et ensuite une fois que c'est enregistré, on peut plus y toucher. Aujourd'hui, il y a vraiment ces allers-retours perpétuels. Le travail de maquette, Lisa?
Jeter un mot par rapport à ça, c'est qu'aussi parfois ça, le risque peut être aussi qu'en fait le réalisateur s'est tellement habitué à la maquette, à utiliser des sons virtuels, que quand on change pour des vrais instruments, d'un coup, ils reconnaissent plus ce qu'ils avaient aimé, en fait. Et ça m'est arrivé justement sur le documentaire Nacal, où c'était pour violon. Et en fait, elle a tellement été habituée par la maquette de violon que le jour où je lui ai amené les enregistrements, bah, il y a pas tous les morceaux, mais il y a certains morceaux sur lesquels elle, pour elle, c'était pas du tout la même chose. Et donc après, on essaye de parler, j'essaye de trouver, mais bon. Du coup, il y a certains passages, j'étais obligée de garder la maquette, alors que, voilà, le violoniste avait été enregistré.
Et parfois, alors il y a soit on remplace la maquette par des vrais sons, soit on garde la maquette, mais parfois c'est un peu entre les deux. Est-ce que ça vous est arrivé de garder un élément de la maquette au sein d'un orchestre, par exemple ?
Oui, ça arrive souvent, bah, pour des raisons budgétaires. Par exemple, il se trouve que les percussions, ça, vu que c'est un son ponctuel comme ça, ça rend plutôt très bien en instrument virtuel, et les producteurs le savent très bien. Du coup, malheureusement, ils disent, bon, alors on enregistre les cordes, les bois et les cuivres, on est d'accord. Et comment ça ? Bah oui, non, mais parce que tu gardes des maquettes sur les percussions. Ben oui, et puis alors en tant que compositeur, on n'est pas toujours légitime pour parler argent, parce que les producteurs se mettent toujours en tête qu'on en veut toujours plus. C'est bien souvent le cas où on garde des éléments, les claviers, les harpes, qui restent en instrument virtuel, mais par contre ce qui fait beaucoup moins la blague, les cordes, les cuivres et les bois, faire attention à l'enregistrer en vrai, mais c'est bien souvent et pour toutes les textures que comme toi, que tu, enfin les textures et les recherches de son, ça forcément ça reste dans le mix final. Mais oui, j'ai l'impression que toutes les BO maintenant sont plus ou moins hybrides, hein. C'est assez rare, le full live orchestra, c'est rare quand même.
Et puis une bonne musique de film, une musique qui est adaptée à un film, parfois n'est pas dans la perfection, quelque chose qui n'est pas destiné finalement à être écouté dans une condition autre que le film, même si évidemment on prend plaisir à écouter des disques et à voir des musiques de films jouées en concert, mais parfois il arrive à des réalisateurs de préférer cette imperfection, donc de préférer par exemple un interprète maladroit qui serait par exemple le compositeur ou la compositrice, plutôt qu'un pianiste virtuose, par exemple. Est-ce que ça vous est arrivé de reprendre une version que vous avez faite vous-même ?
Moi, ce qui m'est arrivé, bah, c'est justement pour ce même documentaire où en fait, on avait besoin d'un violon qui ne soit pas lisse, qui se change du violon classique qu'on a l'habitude d'entendre. Et du coup, le violoniste a joué en fait avec un archet qu'il avait acheté en Égypte et qui était un archet particulier parce qu'il est en fait, c'est très difficile de sortir une note de manière directe et lisse. Donc ça a permis justement d'apporter quelque chose de plus rugueux.
La musique de film autorise ce genre de choses. Tout à fait.
Oui, ça donne de la personnalité souvent, ça donne un caractère particulier. C'est un peu le même cas de figure. Je travaille sur un film où la réalisatrice voulait un son de flûte, mais imparfait. Alors il se trouve que je suis pas du tout flûtiste, ce qui tombe très bien, mais j'ai une flûte traversière dans le studio, donc je me suis mis à jouer de la flûte comme je peux, ce qui sonne un peu entre une flûte de Pan et un canard malade. Mais en tout cas, elle a bien aimé ce son-là. Ce qui fait que ça donne une particularité, et on va surtout pas enregistrer un vrai flûtiste qui lui jouerait à la perfection. Oui.
Et en parlant de la perfection, est-ce que on peut parler de l'orchestration ? Vous avez la science de l'orchestration, on va dire. Mais aujourd'hui, dans le métier, beaucoup de compositeurs n'ont pas cette science-là et font appel à des orchestrateurs. Est-ce que déléguer l'orchestration à des orchestrateurs, c'est quelque chose que vous envisagez, ou alors vous tenez à faire tout, à l'orchestrer votre musique ?
Alors moi c'est vrai qu'à la base donc je viens plus du côté justement où j'enregistre beaucoup de sons et où je vais chercher comme ça des sonorités, et en fait au plus j'ai appris à utiliser l'orchestre et au plus je me suis dit il faut maintenant que je l'envisage de la même manière que j'envisage les sons, en fait je me suis tellement habituée à cette manière de faire, et du coup j'ai beaucoup expérimenté et cherché comment utiliser l'orchestre du coup d'une façon personnelle, et c'est vrai que c'était quoi la question ?
Un orchestrateur ne pourrait pas le faire comme toi, tu.
C'est voilà, ça. Exactement. Et en fait, c'est vrai que du coup, je joue quand même sur des textures, mais au sein de l'orchestre ou sur des sons où je demande, par exemple, à des percussionnistes d'utiliser des brosses, voilà. Et ça, c'est vrai que ça fait partie du processus de création. Donc, ça dépend, je pense, le genre du film, le genre de la musique.
Voilà. Parce qu'un orchestrateur peut intervenir quand c'est de l'orchestration un peu conventionnelle, on va dire, où il fait un travail de copie, où il reproduit les partitions pour les différents pupitres, on va dire. Ça peut faire un gain de temps. Mais il y a certains orchestrateurs qui sont vraiment un soutien très fort pour le compositeur. Erwan, tu orchestres aussi toi-même ?
Je parlais des instruments virtuels et des maquettes. Moi, quand je fais des maquettes, tout est déjà écrit. Même les subdivisions des voix, de toutes les cordes, il n'y a plus qu'à porter la maquette sur la partition. Tout est écrit jusqu'au dernier coup de triangle. Donc, je ne dissocie pas la composition de l'orchestration. Ça va, c'est un seul geste. Ça va vraiment ensemble. Donc, je me vois pas du tout déléguer l'orchestration. Après, je sais qu'il y en a pas mal qui le font, et c'est tant mieux, parce que peut-être que c'est une connaissance qu'ils n'ont pas, et ça va magnifier leur musique, ça va apporter autre chose. Ils ont peut-être une très belle inspiration mélodique ou harmonique, des très belles choses qu'ils vont faire au piano, mais ils savent pas comment les répartir à l'orchestre. Donc heureusement qu'il y a des orchestrateurs qui arrivent et qui, en connivence avec le compositeur, bien sûr, vont réussir à aller jusqu'au bout du geste, là où le compositeur pourrait peut-être pas le faire tout seul, quoi.
Il y en a certains qui assumaient d'ailleurs pleinement leur incompétence. Francis Lay, hein, le compositeur de Claude Lelouch, il a fait son thème d'Un homme et une femme, par exemple. Bah lui, il assumait pleinement d'avoir besoin de son orchestrateur pour porter avec l'orchestre son thème. C'était un mélodiste, en fait, avant tout. Et il y a les Maurice Jarre ou Alexandre Desplat. À Hollywood, on leur impose des orchestrateurs. Et puis, ils font tellement de projets que ça leur permettait, voilà, de gagner du temps. Alors, on a parlé des maquettes, de l'orchestration. On aborde un peu tous les sujets. Il y a aussi l'étape du mixage. On parlait du fait qu'il y a la maquette qui est impropre, et qu'ensuite il y a la bonification de la musique avec l'orchestre, et puis ensuite il y a comme une étape de mixage où on ajoute des sons, où on a l'impression que la musique est détériorée à son tour. C'est-à-dire qu'on va rajouter des sons qui vont rendre presque, voilà, la musique qui s'ajoute à des sons. Et donc, quelle est l'écoute du compositeur à ce moment-là au mixage ?
Est-ce qu'il y a film, tu veux dire,
le mixage film,
le mixage film, les dialogues et les bruitages.
Voilà, parce que du coup, une fois que la musique a été faite la plus belle possible, cette fierté du compositeur, et quand il découvre au mixage qu'on a ajouté des bruits, que ça peut être du vent, de l'orage, ou même des bruits crissements de voiture, etc. Comment, voilà, vous voulez protéger votre musique ou alors vous laissez aller ?
Non, je laisse complètement aller. En fait, à partir du moment où on est en mixage film, pour moi, la musique, elle ne m'appartient plus vraiment, en quelque sorte. Et je fais confiance aveuglément au réalisateur ou à la réalisatrice. Donc, si jamais il ou elle a décidé qu'il fallait à ce moment-là des crissements de pneus, ben, c'est son choix. Et c'est surtout pour le film, en fait, à partir du moment où ça fonctionne et c'est pour le bien du film, voilà, qu'on coupe la musique ou pas, je m'en fiche un petit peu.
Et on n'a plus vraiment notre mot à dire à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que le compositeur qui est dans le fond du studio qui dit par contre, j'avais ma main, ouais.
On nous invite pas toujours.
Non, on n'est pas invité à la fête. Par contre, ce qu'on peut anticiper, c'est éviter ce genre de problème, parce que quand on compose, on a déjà les bruitages qui sont moins sophistiqués et qui sont pas les bruitages définitifs, mais il y a déjà ce bruit de voiture qui passe, on sait quand seront les dialogues, bien sûr. Donc, il est de notre responsabilité d'anticiper ce genre de problème et de pas mettre la musique en conflit avec un dialogue. On sait que quand il y a un dialogue, on va occuper d'autres fréquences si le réalisateur veut qu'il y ait une musique à cet endroit-là. Pareil, quand on sait qu'il y a une scène, là, je fais face à ce problème d'ailleurs. Dans une scène de combat, il y a des bruits de partout, et j'ai fait une première version où j'ai des grosses ponctuations d'orchestre comme ça, des trucs comme ça qui rajoutent encore au bazar, ce qui est intentionnel parce que c'est un gros gloubi-boulga de son, et vu que ça dure pas longtemps, ça dure une dizaine de secondes, c'est vraiment les deux meufs badass qui arrivent dans une baraque et il y a plein de gardes dans tous les sens et elles font clac 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 clac, et ça dure 10 secondes, et je me suis dit pourquoi pas rajouter encore au bazar ambiant en faisant des énormes accents d'orchestre comme ça pour ajouter à l'urgence et au danger. Le monteur et la réalisatrice ont découvert ça hier et ils ont pas compris. Ce que je comprends, hein, je comprends. Il y a déjà des coups de poing et des coups de pied de partout. Pourquoi tu vas rajouter des... Alors, je vous dis ce que je vous dis là, c'est pour rajouter à cette espèce de débauche de son pendant 10 secondes pour que ensuite, quand elles ont fini de se battre et que la musique est finie, il y a une espèce de grand rien, de grand vide. Et ça, c'est intéressant, je trouve, de couper, d'avoir cette espèce de contraste. Mais bon, au final, c'est eux qui ont raison. Enfin, c'est toujours eux qui ont raison. Parce que j'ai eu beau argumenter, ils ont dit oui, mais non. Donc j'enlève mes trucs. Et je voulais en venir là. C'est, au final, j'ai fait j'ai occupé des fréquences aiguës parce que les coups de poing sont surtout dans les... Donc j'ai fait des violons dans les aigus en trémolo qui font un glissando comme ça. Voilà, donc j'ai occupé une fréquence qui n'était pas occupée par la bagarre. Faut toujours, voilà, dans la mesure du possible, anticiper le genre de problème qui pourrait nous surprendre au mixage et pour lesquels la musique pourrait lutter avec les bruitages.
Ça, c'est intéressant, que le compositeur prenne des sons pour compléter les sons, pour pas être sur les mêmes fréquences. Ouais. Et justement, Lisa, qui travaille avec la texture, avec le est-ce que d'avoir des éléments du son, ça c'est habituel dans votre travail?
Ah oui, complètement. Comme dit Erwan, faut prendre vraiment en compte les fréquences et en fait quelle zone de fréquence est particulièrement occupée dans le film pour éviter justement de surenchérir. Et c'est vrai que les dialogues, c'est le pire parce qu'en fait, dès qu'on met un peu dans les fréquences de dialogue, on perd très vite la clarté. Et la clarté, c'est vraiment faut le privilégier dans le film.
Mais si je peux me permettre, il n'y a pas de règle. Parce que un compositeur comme John Williams, par exemple, j'ai été hyper surpris de voir à quel point il arrive à faire une musique qui est riche et intéressante musicalement, harmoniquement. C'est pas une nappe en dessous, mais qui ne vient pas perturber le dialogue. Quel film juste Papers.
Oui, Pentagon Papers.
Pentagon Papers. Mmh. Il y a une scène de
Spielberg.
Pardon.
Spielberg.
Oui, oui. Une scène de, il y a un très grand, il y a un enjeu. Donc c'est une scène de dialogue où il y a vraiment eu un conflit entre deux personnes. Donc ils argumentent chacun de leur côté et dans leur argumentaire il y a une vraie progression. Il y a un moment il y en a un qui a le dessus, l'autre qui a le dessus et la musique suit ça. Et malgré le fait que ce soit très dialogué, il y a une musique derrière qui est hyper intéressante, qui suit l'action et qui nous dit à quel point, à quel moment il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort, l'autre qui prend le dessus. Et je me dis mais en fait, c'est possible. Quand on est un espèce de génie comme John Williams, mais il n'y a pas de règle. On n'est pas obligé de se dire, il y a un dialogue, du coup, je vais me mettre en retrait. Il y a des foufous génies qui y arrivent quand même. Et ça, c'est hyper intéressant de voir que, en fait, on croit qu'il y a des manières de faire, mais avec suffisamment d'inventivité ou de vocabulaire ou de sensibilité, on peut contourner ces choses-là.
Oui, aucune règle en musique de film, c'est vraiment s'adapter au mieux aux séquences, justement s'adapter à une séquence dans la manière qui a aucune règle, le compositeur, la compositrice a un pouvoir sur le film et peut changer le sens d'une scène. Une scène triste peut devenir joyeuse, une scène joyeuse peut devenir triste. C'est aussi l'enjeu de la collaboration. Ça implique une confiance. Le réalisateur, la réalisatrice doit vous faire confiance parce que vous allez intervenir sur leur film et transformer ou même parfois révéler le sens d'une scène. Et à quel point finalement vous avez pu être en décalage par rapport au sens de l'image ? Est-ce que vous avez des exemples où vous avez justement été presque même contraire à l'image. Petit moment de réflexion. Je pense à Chasse gardée. Chasse gardée, en fait, c'est l'histoire. Donc, le film vient de sortir il y a quelques mois. Donc, c'est une comédie de Frédéric Forestier et Antonin Fourlon. Et dans Chasse gardée, donc, l'idée, c'est qu'il y a une famille qui vient s'installer à la campagne. Et donc, il y a le côté enjoué de la campagne, le côté serein. Les enfants s'amusent dans le jardin. Donc, il y a cette côté serein. Et en fait, il y a des chasseurs autour et qui vont tirer, enfin qui font la chasse autour de la maison. Et la musique va jouer le contraste par rapport à cette violence de la chasse. Eh bien, cette musique va être en décalage par rapport à cette violence pour représenter la sérénité de la raison pour laquelle la famille s'est installée. Comment ça s'est travaillé ça pour
Tu parles de la scène du début où ils découvrent la maison.
Voilà, ouais. Oui.
C'était vraiment une volonté des réalisateurs d'être avec la famille. On veut pas vendre la mèche trop vite et on veut surtout faire ressentir aux spectateurs le bonheur que cette famille parisienne qui déménage à la campagne a d'avoir leur maison de rêve avec un champ, avec une forêt à côté. Il se trouve que la forêt, il y a des chasseurs dedans, mais on le sait pas encore. Et les réalisateurs voulaient absolument que ce soit idyllique, donc une musique apaisée, bucolique, avec un joli thème qui se développe, pour ensuite encore mieux aller attraper le spectateur avec le patatrac.
Et on va regarder cet extrait de Chasse gardée.
À le 3. Et voilà. Le terrain. Voilà. Hein? Ils sont déjà heureux. On n'est pas mieux qu'à Paris ici. Promenade partout. Magnifique, non? Hein? Alors,
je pourrais faire mon bureau d'archi en bas et puis toi tu ferais ton studio de musique ici, là, dans la grange.
Ouais. On peut faire du bruit?
Quel bruit! Le premier voisin est là-bas, la petite maison.
Charmant en plus.
À moins de déranger les hiboux.
Hein? Remis à des hiboux! Il y a vraiment des hiboux?
Mais oui, bien sûr.
Ça vous plaît, les enfants?
Oui.
Excusez-moi, oui. Si je peux me permettre, hein. Là, tout ça, là, c'est compris dans le prix?
Tout ça?
Bah ouais, tout ça, la grange, le puits, le sentier.
Ah, tout ça, oui. Même les carottes du potager sont à vous.
Et le terrain, il va jusqu'au bois, c'est ça?
Ah non, le bois aussi est à vous.
Non.
J'y crois pas.
Le bois aussi est à nous. Le bois aussi est à nous.
Ouais. Regardez, les enfants sont déjà chez eux. Bon, il faut que je vous informe d'une petite servitude sur ce bois.
Maman, on va à s'envoler.
Oui, oui, ma puce. Attends, s'il te plaît, on parle, c'est important, ma chérie. Pardon.
Bon, la servitude, c'est-à-dire que le bois est à vous, mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de se promener dedans et de le traverser.
Deux secondes, s'il te plaît.
Bon, c'est clair pour vous, la servitude?
Oui, le bois est à nous.
Oui.
Ça, j'ai compris. Ça, et les gens peuvent donc le traverser pour...
Se balader, cueillir des champignons.
Voilà. Tiens, des champignons, voilà, vous me l'ôtez de la bouche.
Ah, c'est rien, ça.
Ça va?
Ah! Au seul et unique voisin.
Ah oui.
Bernard, céréalier, très grosse exploitation, 1000 hectares, très sympa. Et Michel, éleveur de poules, exploitation beaucoup plus modeste, mais adorable, très gentil. Et gay. Ah.
Vous avez dit gay?
Hein?
Pourquoi vous nous donnez cette information, madame?
Parce qu'on a des idées fausses sur la campagne. On pense que nous sommes des arriérés, alors que nous sommes beaucoup plus tolérants dans les villes.
Et c'est très bien, ça, ouais. Il fallait commencer par ça, c'est très bien.
Surtout si vous tolérez les Parisiens, comme nous.
Voilà.
Les enfants, vous venez? Allez. On y va, mes petits cœurs.
Et voilà. Et donc, pour ceux qui n'ont que le son, à la fin de cet extrait, nous voyons un trou de balle dans la maison et la musique va aussi jouer ce moment-là, mais avec ironie. Donc, il y a une idée d'ironie aussi dans la comédie. On dit que la comédie est le genre le plus compliqué pour un compositeur parce qu'on ne peut pas faire de musique qui fait rire. Mais malgré tout, par l'ironie, par ce décalage, comment voilà, tu as travaillé ça?
Ben, c'est vrai que faire une musique de comédie, c'est vraiment on est sur un fil, quoi. Il faut pas. Je viens de dire qu'il y avait pas de règles. Je dis, il faut pas trop en faire. En même temps, moi, je pense vraiment que c'est une question de vocabulaire du compositeur. Que c'est comme quand on veut formuler une idée à l'oral. On a une idée précise en tête, mais si on n'a pas le vocabulaire nécessaire pour exprimer cette idée précisément, on va faire des détours alambiqués, on va faire trois phrases au lieu d'une. Et ben, je pense que c'est exactement pareil en musique. Pour avoir justement cette idée de choses un petit peu grinçantes, il fallait trouver le vocabulaire musical. Alors moi, je représente ça dans ma tête comme une espèce de grande étagère. Où j'ai mis toutes les manières d'agencer les notes entre elles, les différentes gammes, les différents modes, les différents rythmes, les différentes formules mélodiques, et je les ai identifiées à la nostalgie, la comédie, tout ça, plein d'émotions différentes, ces éléments de vocabulaire musicaux, je vais aller piocher quand il y a besoin d'un petit peu de nostalgie mais teintée de regret, et ben je vais piocher mon petit mode de fa avec une mélodie en quinte. Je dis n'importe quoi, mais en tout cas j'ai des éléments de vocabulaire comme ça qui me permettent de lutter contre un peu le syndrome de la page blanche, des grands principes comme ça, mais que moi, en écoutant de la musique, je me suis dit tiens, ça me fait ressentir ça, ça me fait ressentir ça, et c'est vachement utile pour la comédie où il y a besoin de beaucoup de subtilité pour pas être lourd. Et justement de pouvoir avoir accès à un vocabulaire suffisamment fourni, ça permet de se couler là. Je sais pas si vous avez fait attention, mais la musique, il y a des stops, il y a des go en fonction de ce qui se dit pour souligner les moments. Par exemple sur la dépendance, sur la dépendance, la comment c'est la forêt, la
ah oui la le mot de oui la ouais. Je l'ai pas.
Servitude. Tu veux
dire. Servitude.
Merci.
Voilà.
Je parle de vocabulaire. Bref. Voilà, quand elle parle de la servitude, la musique reste en suspens. Et ça a provoqué un rire. Alors, je dis pas que c'est que la musique, mais c'est l'ensemble de la mise en scène, le plan qui s'arrête, le dialogue, le plan sur la musique qui reste en suspens, qui vont, chaque élément petit, chaque petit élément mis bout à bout vont provoquer le rire. Et ça, c'est un choix de réalisation. Et avec un compositeur qui va avoir le vocabulaire suffisant pour le faire, ça peut marcher. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de règle. Des fois, ça ne marche pas, quoi.
Alors, regardons un autre extrait de Chasse gardée où on n'est plus dans l'humeur du début. Nous changeons d'humeur.
Je vous raccompagne.
On fait quoi?
Voilà, le couple qui vient de s'installer va dans le marché du village où tout le monde est avec son fusil. Il y a un côté cauchemar. Et la musique, on est entre Hitchcock avec les cordes à la Bernard Herrmann et entre la chasse au harpon des Dents de la Mer de John Williams. Est-ce qu'il y avait des références d'ailleurs de la part du réalisateur pour orienter là-dessus?
Alors non. Gros coup de chance pour moi, ils avaient pas, ils avaient une envie de faire référence aux comédies américaines des années 90 qui peuvent être des films comme Matilda ou même Menteur avec Jim Carrey, dans lesquels la musique a beaucoup de place, mais pas sur une action. Alors Matilda, il y a un argument surnaturel quand même, mais Menteur, c'est juste une comédie avec un personnage de cartoon qui est Jim Carrey, mais la musique est vraiment très présente, et ils avaient vraiment cette envie de, dès le début, d'avoir une musique qui souligne les actions. Donc ils n'avaient pas vraiment de musique de référence, même si le monteur avait mis des musiques temporaires sur le montage. Les réalisateurs étaient très très conscients du point, à quel point ça peut verrouiller un peu les choix musicaux de mettre des musiques temporaires. Donc ils ont dit à chaque fois, mais tu te détaches de la référence. Hein. On a mis ça pour rythmer le montage, mais par contre, trouve ton truc, trouve ton thème, ta manière de faire les choses. Et là, cette séquence-là, c'est un peu cadeau pour un compositeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue, c'est juste... des actions, c'est une séquence musicale, quoi. Et c'est assez rare d'avoir la possibilité de s'exprimer comme ça sur une séquence, ça doit faire une minute. C'est cadeau, quoi.
C'est très très bien fait. Et donc du coup là, tu viens d'évoquer, de soulever un lièvre d'un grand sujet dans la musique de film, qui est donc la musique temporaire, temp track en anglais. C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui se pratique dans l'industrie, surtout aux États-Unis, je crois que ça nous vient des États-Unis, c'est de mettre des musiques préexistantes temporaires sur le montage avant même de faire appel à un compositeur. Et le compositeur, le premier contact qu'il a avec le film, c'est de découvrir ce montage avec plein d'autres musiques. Et du coup, on lui demande de faire la même chose, jusqu'à presque même à Hollywood imiter fortement. Quel est votre regard sur ces musiques temporaires? Est-ce que vous y confrontez vraiment régulièrement?
Alors, c'est vrai que de mon côté, j'ai eu de la chance d'arriver souvent à l'étape du scénario. Souvent, les musiques temporaires arrivent au moment du montage image, du coup, parce qu'ils ont besoin d'un rythme, en fait. Ils ont besoin d'avoir une référence pour trouver, voilà, le rythme de l'image en fonction. Et c'est vrai que quand ça arrive, on va beaucoup discuter de ce qui plaît vraiment dans cette musique, parce que parfois, ça peut être très subtil. En fait, ça peut être juste un rythme, un élan ou un instrument en particulier. Donc on va, voilà, beaucoup en discuter. Après, j'ai rarement été confrontée à des réalisateurs ou des réalisatrices qui vraiment voulaient exactement cette musique. Après, je sais pas si toi ça t'est arrivé.
C'est-à-dire qu'à un moment ils sont obligés d'abdiquer parce qu'ils peuvent pas avoir acheté la musique de référence, qui sont souvent des grands tubes de la musique de film, parce que les réalisateurs aiment souvent beaucoup la musique de film et ont souvent beaucoup de références, mais c'est des morceaux très très connus, donc on peut pas forcément pas avoir les droits, mais c'est vrai que des fois ils restent un peu accrochés à des références, et c'est très difficile pour le compositeur d'arriver à faire, il n'y a pas de question de mieux ou moins bien, mais d'arriver à retrouver l'essence de ce qui a fait de ce qui a provoqué leur choix de poser cette musique sur cette scène. En effet, ça peut être un instrument, ça peut être un rythme des fois, on sait pas, c'est pour ça qu'il faut beaucoup discuter autour de ça. Pourquoi t'as pris ça? Des fois c'est le monteur qui a aussi, des fois c'est un peu random, hein, c'est un peu aléatoire. Tiens, une musique de comédie, il glisse un truc, bon ça marche. C'est un choix qui est pas est pas vraiment conscient au départ et qui est pas idéal. Mais par contre, le danger, c'est qu'à force de regarder et de regarder la scène en boucle, d'ajuster le montage dessus, même si c'est pas un choix qui leur va au départ, ils se sont tellement fait au truc que maintenant, que après ils demandent faut faire une musique un peu dans cet esprit-là, alors qu'en fait, en vrai, dans leur narration, il y aurait un choix musical beaucoup plus pertinent à faire, mais vu qu'ils sont habitués à un choix qui a été un peu random au départ, ça fait des musiques des fois qui sont un peu à côté de la plaque, quoi.
Ouais, et puis surtout
quand bien même c'est de la musique originale composée pour la scène.
Ouais. Et puis il y a l'idée aussi de l'unité du film, trouver la personnalité du film, plutôt que de mettre des musiques qui ont une existence ailleurs. L'idée, c'est de faire une musique sur mesure qui va appartenir à ce film. Je suis un peu là pour en train de défendre la musique originale, mais en tout cas, il y a cette idée, j'imagine, dans votre travail, de fournir quelque chose. Si on vous fait appel à vous, bah, c'est pour que la musique soit singulière, originale dans le sens nouvelle, inédite, plutôt que de se conformer à des références. Mais est-ce que, par exemple, dans le dialogue avec un réalisateur, quand un réalisateur ne sait pas parler des notes de musique, est-ce que faire appel à une référence peut aider à comprendre ce qu'il veut ?
Alors, ça dépend. Je trouve que justement, les réalisateurs et réalisatrices qui n'ont pas de termes techniques spécialement en musique, justement, c'est intéressant de parler avec d'autres mots parce que du coup, ça fait appel à l'imaginaire et puis parfois de parler en fait juste de tristesse, ou d'expliquer l'histoire ou d'expliquer sa manière de penser, de ressentir. Nous, du coup, ça peut faire écho aussi à des choses qui vont être du coup directement personnelles et comme tu disais, qui vont apporter une identité au film. Après, c'est vrai que des fois, si vraiment on n'arrive pas à se comprendre, parce que c'est la même chose des fois quand on dit par exemple ah j'aimerais une musique qui bouillonne, ben en fait on va pas du tout avoir la même notion de bouillonner, et des fois ça peut vraiment être surprenant des réalisateurs qui nous disent ah j'aimerais je sais pas quelque chose un rythme comme ça qui monte, un truc action, et d'un coup ça part, et en fait on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même notion d'un rythme qui monte et qui part. Donc des fois ça peut aider pour ça, surtout quand on sent que les termes sont pas forcément les mêmes, parce qu'on vit tous des choses différentes, donc on a tous forcément des associations différentes sur les mots, donc ça peut aider.
Et par exemple, pour aborder un autre projet de Lisa Chevalier, Rayon frais, court-métrage de Karina Kreleff de 2023, donc c'est vraiment tout frais. Rayon frais, c'est le rôle c'est le personnage d'une caissière de supermarché qui tombe sous le charme d'un voleur de DVD. Et dans ce film, on a à la fois une couleur un peu thriller suspense et en même temps un aspect très jazz. On va écouter un moment jazz du film et on l'évoque juste après.
Et
pour moi aussi.
Tôt ou tard, je reviendrai. Soyez prête.
Alors déjà, d'ailleurs, j'ai deux questions. Alors, le côté jazz arrive par le choix d'un instrument, saxophone. Qui a eu ce choix-là dans un registre jazz? Est-ce que voilà, d'où vient l'intention? Est-ce que c'est une force de proposition de ta part? Est-ce que c'est la réalisatrice qui voulait ça?
Alors en fait, c'est vraiment le personnage de Janine, donc la dame qu'on voit, le personnage principal, qui en fait est ultra fan des polars, des films noirs, et elle passe sa journée à en regarder. Et quand elle est pas derrière sa caisse, en fait, elle est dans sa voiture pendant les pauses et elle regarde des extraits du Cercle Rouge et elle est à fond dedans. Et en fait, elle aimerait que sa vie devienne celle d'un polar, en fait. Elle aimerait rentrer dans son écran. Donc du coup, la question de la musique un peu jazzy et surtout des films noirs des années 80 s'est posée, et c'est pour ça aussi qu'on a fait appel du coup à un style plus jazz. Et il y avait donc plusieurs univers. Il y a vraiment l'univers de la caisse, je pense qu'on va voir tout à l'heure, donc son univers à la caisse de supermarché qui est très répétitif. Et là, donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, elle se voit vieillir derrière cette caisse de supermarché. Et elle aimerait qu'il y ait quelque chose qui change. Et du coup, elle a tout un truc sur la jeunesse. Elle va, en fait, il y a une chambre froide dans le magasin qu'elle va tout le temps regarder. Elle aimerait tellement y rentrer pour pouvoir essayer de rajeunir sa peau. Et donc, justement, sur cette séquence, c'était de jouer avec le côté glaçant. Donc, on entend les cymbales frotter, tout ça qui rappelle la glace et qui rappelle le fait de vouloir se geler la peau en quelque sorte.
Et l'autre question que j'avais sur cet extrait, c'est que c'est un petit court moment. C'est-à-dire que parfois, faire de la musique de film, c'est une petite transition très courte. Est-ce que le morceau était beaucoup plus long et a été raccourci au montage, ou alors tu savais qu'il fallait composer cette durée?
Bon, là, c'était très court. Et justement, en parlant de ça, nous, on appelait ça, du coup, des virgules musicales. C'est des moments qui sont là vraiment pour passer sur quelque chose, mais dont on ne va pas s'arrêter. On n'a pas le temps de développer forcément de mélodie. Ou, voilà.
Mais tu as composé pour cette durée, du coup, tu
oui,
le savais.
Oui, exactement.
D'accord. Parce que parfois, le compositeur compose un long morceau, hein, Erwan peut en être témoin, et puis hop, ça coupe au montage.
Ah oui, ça. Mais en général, le compositeur est encore là pour corriger son morceau. Ça, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé que je découvre après que le montage a été coupé et que le morceau a été charcuté comme ça. Ça fait partie des différentes versions dont je parlais tout à l'heure. Le montage est raccourci. Le compositeur doit adapter la musique de manière élégante pour éviter la coupe. Il faut réduire les mesures, raccourcir un thème, faire en sorte que ça se termine bien. 5 secondes avant, parce qu'on parle pas en termes de mesure, on parle en termes de secondes, donc ce qui n'a vraiment rien à voir. Ouais. Du coup, ça peut nous faire couper une mesure et 3 temps, quoi.
Ouais. Parce qu'un réalisateur qui connaît pas la musique peut se dire, je vais lui demander de réduire de 2 secondes en pensant que ça se fait en 2 secondes.
C'est souvent ça. On dit mais c'est rien, c'est 2 secondes. Hein.
Voilà.
Ah ouais, c'est encore pire.
Et en fait, c'est la logique du morceau en fait qui est remise en question.
Ouais. Et parce que quand on compose un truc, on a la logique. Enfin, pour moi, en tout cas, la logique musicale prime. Il faut que ce soit logique musicalement. Et j'ose espérer que ça aura un écho avec l'image. Donc après, quand on coupe la logique musicale, il faut quand même faire preuve d'inventivité et bien rebondir et retomber sur ses pattes pour que ça reste musical avec 3 temps et demi en moins.
Alors pour revenir sur Rayon frais avec Lisa Chevalier, regardons l'ouverture et où là il y a un vrai travail entre le son et la musique. Il s'agit donc l'ouverture, on est sur l'outil de travail, hein, la caisse.
Vous avez la carte de fidélité ? 17,20 €. Vous avez la carte de fidélité ?
Donc ça c'est super, ces percussions qui se synchronisent avec les bruits des machines. Comment ça s'est fait ? Ouais, c'est...
Oui, en fait, j'ai enregistré du coup des sons de caisses de supermarché et j'en ai créé un instrument. Sur l'ordinateur en fait et je fais jouer donc une à la base j'ai écrit pour batterie et j'ai attribué donc certaines parties de batterie à cette caisse de supermarché et c'était directement pour donner cette idée de son univers elle qui est donc le supermarché qui est quelque chose d'assez répétitif et en même temps derrière on entend la batterie qui annonce le jazz en fait qui va arriver plus tard qui rentre et qui se mêle du coup à son univers de travail.
Mais le son de la machine à écrire, c'est toi qui l'as créé.
Oui, complètement.
En fait.
Ouais, et d'accord. Là pour le coup, j'ai écrit donc ils l'ont monté vraiment en fonction de la musique. Ah. À la base, c'était pas comme ça, et quand je l'ai envoyé, ça leur a donné une idée, du coup, pour la scène d'ouverture.
Parce que souvent, on sait pas dans quel sens c'est fait. Est-ce que la musique s'est ajoutée au montage, ou alors est-ce qu'il y a eu d'abord le son et la musique qui se sont faits, et finalement, on peut arriver au même résultat, quel que soit le processus, en fait.
Oui, complètement. Puis là, c'était beaucoup d'aller-retour, surtout. En fait, l'ouverture ressemblait pas du tout à ça, à la base, et en faisant des allers-retours, musique, image, ben, ça a pris cette tournure.
Et la réalisatrice Karina Krelev, je ne sais pas si elle a fait d'autres courts-métrages avant.
C'était son premier produit en tout cas. Elle a fait des autres productions avant.
Et donc quand on fait vraiment un premier film produit comme ça, parfois on a envie de tout maîtriser sur un film. Et souvent la musique est le seul élément qu'une réalisatrice ou un réalisateur ne peut pas maîtriser. Donc c'est lâcher un peu de son film. La confiance s'est fait facilement ?
Oui, complètement. En fait, je l'ai rencontré par le biais du troisième personnage, qui est un dispositif au festival, donc maintenant de Marseille, mais avant à Aubagne. Et en fait, elle avait cette idée, elle voulait qu'on parte d'une musique et qu'il y ait quelque chose d'un peu fou. Et elle parlait du morceau Les Neiges du Kilimandjaro, de Pascal Danel, il me semble. Et elle aimait bien cette chanson, puis elle disait, oui, je pense qu'il pourrait y avoir un truc avec. Et du coup, je lui avais amené une version rock-punk des Neiges du Kilimandjaro. Et en fait, elle a aimé ce décalage et c'est comme ça qu'elle s'est dit, ok, il faut qu'on travaille ensemble, il y a plein de choses à faire. Et finalement, on a complètement changé, il n'y a plus du tout Les Neiges du Kilimandjaro. Mais en tout cas, oui, il y avait vraiment une confiance mutuelle et puis on s'est complètement comprise sur le film, sur les intentions. Donc...
Ouais, très bien. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un désir de musique. On n'impose pas une musique que ne désire pas un réalisateur ou une réalisatrice. Est-ce que ça vous est arrivé, Rouen, par exemple, le réalisateur ou la réalisatrice ne voulait pas de musique? Je crois que sur Une année polaire, il y a eu cette histoire-là où il y a l'idée de convaincre aussi, par force de proposition, de mettre une musique là où elle n'était pas forcément envisagée.
Oui, parce que bah, le réalisateur, il est quand même amené à mener un bateau qui comprend tous les corps de métier. Donc il peut pas être spécialiste de tous les corps de métier. Donc c'est pour ça qu'il fait appel à des personnes en qui il a confiance. Et il faut savoir la créer, cette confiance. Il faut savoir faire en sorte que le réalisateur puisse se reposer sur une idée que le compositeur a eue, mais que lui n'avait pas du tout eue. Parce que le compositeur, quand même, en sa qualité de expert, il arrive avec un point de vue et une expertise de ses différents projets avant, en disant bah, j'ai rencontré ça comme problème une fois, on a réussi à trouver ça comme solution, fais-moi confiance. Voilà. Il peut y avoir des ratés aussi, et c'est bien de pouvoir avoir une relation suffisamment de confiance pour dire j'essaye ça, je suis pas sûr, on essaye, tu me dis ce que t'en penses. Et voilà, mais il faut aussi parfois, je pense, le compositeur doit trahir en quelque sorte, je mets des gros guillemets, hein, mais le réalisateur pour réussir à amener une idée auquel il a pas pensé, parce que juste le réalisateur est pas expert dans ce domaine-là. Donc il peut avoir une vision globale, une envie de musique à tel ou tel endroit, mais peut-être passer à côté de ce que pourrait apporter la musique sur une scène, ou l'absence de musique sur une scène. Ça peut arriver aussi que le réalisateur dise « là, je veux absolument un truc qui accompagne », et puis qu'en fait, ben, on s'aperçoit qu'il y a eu de la musique avant, il y en a après, et là, si on retire la musique, ça veut dire autre chose, ça crée quelque chose, ça crée un vide, ça crée du froid, ça crée une tension, ça crée quelque chose. Donc c'est important de pouvoir proposer des choses auxquelles le réalisateur a pas pensé, mais il faut pas le faire n'importe quoi, n'importe comment non plus. Il faut pouvoir le justifier, il faut que ce soit pertinent par rapport à la narration, quoi.
Et dans ce qui oriente l'inspiration d'un compositeur, il y a aussi parfois la géographie des films. J'imagine une année polaire, évidemment, la géographie est très forte. En quoi elle a pu inspirer ta musique tournée au Groenland?
Oui, là le réalisateur voulait. C'était un choc des cultures, ce film. Enfin, la rencontre de deux cultures, la culture danoise et la culture inuite groenlandaise. C'est l'histoire d'un instituteur qui est muté dans un village au fin fond du Groenland. Et qui va se trouver confronté à une sorte de réticence à sa présence dans ce village, liée à l'histoire entre ces deux pays. Et le réalisateur voulait que ces deux zones géographiques et culturelles soient illustrées dans la musique. Donc plutôt des flûtes et des tambours de peau pour le côté inuit, et disons une musique plus occidentale, avec quatuor à cordes, clarinette, un cor, un trombone, pour le côté danois. C'est assez facile de faire se rencontrer ces cultures, parce que musicalement, j'entends, parce que la flûte étant un instrument soliste, c'est assez simple de faire une base de quatuor à cordes avec un accompagnement de cuivre, et de faire un rythme sur un tambour de peau et une mélodie à la flûte. Donc ça s'est fait en fait très naturellement. C'était pas une très grosse contrainte musicale, parce que c'est en fait assez simple de faire se marier ces deux cultures, mais ça a donné une musique que j'aurais jamais eu l'idée de composer si j'avais pas travaillé sur ce film.
Ouais. Oui. Une année polaire de Samuel Collardet, 2018. Regardons deux courts extraits, le premier qui prend en compte cette géographie.
Thank you.
Et voilà, magnifique. Et puis dans le dernier extrait, on a le paysage. On peut applaudir. Et dans le dernier extrait, on a ce paysage. Donc c'est intéressant, la progression de la musique. C'est-à-dire qu'on part de l'instrument local, quasiment, avec un même thème repris. Et puis ensuite, le côté occidental, plus orchestral, en quelque sorte, survient dans un deuxième temps, la double culture. Pour travailler cela, est-ce que tu as écouté beaucoup de musique locale? Comment tu te documentes?
C'est assez peu documenté, en fait, la musique inuite. Il y a quelques enregistrements de musique chamanique donc qui peuvent s'apparenter à ce qu'on a écouté sur le premier extrait, donc des rythmiques répétitives et des flûtes comme ça qui font des volutes au-dessus. Donc j'avais pas de flûte inuite parce que c'est des flûtes en os. Par contre, j'ai acheté au niveau du son, c'est très proche de la flûte amérindienne. Donc, j'ai acheté toute une panoplie de flûtes amérindiennes que j'ai joué un peu à leur manière. Alors, j'ai pas d'ADN inuit, mais j'ai essayé de l'imiter au mieux, en tout cas, pour pouvoir enregistrer la musique du film, parce que je connaissais pas d'Esquimaux pour venir l'enregistrer. Donc voilà, on est aussi amené à devoir se débrouiller, faire un peu du bricolage des fois. Pour répondre à une commande.
Et la transition vient de loin, je crois, Elisa, tu me vois venir. Nacal, un documentaire de Fleur Nappé, puisque c'est un documentaire tourné en Indonésie sur un jeune orphelin indonésien vivant sur l'île de Lombok. Donc là, évidemment, il fallait convoquer cette géographie. Peut-être regardons l'ouverture du film et on en parle juste après. Donc Nacal de Fleur Nappé, là c'est la musique de Lisa Chevalier.
Tout le monde a l'air de le connaître. On me dit qu'il vit seul depuis ses 5 ans, qu'il n'a pas de parents. Mon voyage se termine. Je dois rentrer en France, reprendre mes études. Quand il comprend que je vais partir, Habib se sauve sans dire au revoir. Il disparaît. De lui, il ne me reste que des images et des questions.
Et voilà, on peut aussi applaudir Lisa Chevalier pour Nacal. Et d'ailleurs, on retrouve des choses comme l'année polaire, c'est-à-dire que la musique de film, il y a des choses en commun dans la musique de film, une musique qui est narrative, elle raconte son histoire, la musique. Et on part de la petite flûte, et ensuite, hop, il y a toute une instrumentation des cordes qui s'ajoute à cela. Comment ça s'est travaillé ?
Complètement dans ce film, donc la réalisatrice, en fait, est le personnage principal avec qu'on entend à la voix off, qui est Flore. Et elle est arrivée de Paris, et elle est arrivée en Indonésie, elle a rencontré donc Habib, ce jeune homme. Et il faut savoir que donc la flûte qu'on entend au début, c'est une flûte traditionnelle qui a été enregistrée vraiment en Indonésie. Et ensuite, donc il y a eu toutes ces cordes qui amènent. Et en fait, pour le coup, dans ce film, c'est une histoire d'amour avant tout, même si ça l'amène bien sûr à découvrir tout ce qui se passe en Indonésie concernant les enfants, surtout les enfants orphelins sur les plages, la drogue et tout ça. Donc il y a beaucoup de sujets très difficiles, mais ça naît d'une histoire d'amour. Et donc en fait, volontairement, je ne voulais pas imiter une musique indonésienne ou autre. Il y avait volontairement aussi ce point de vue en fait occidental d'elle qui arrive de Paris sur cette île. Donc voilà, ces cordes-là, c'était vraiment en fait pour elle. Elle m'a demandé, tu vois, quand tu tombes amoureux de quelqu'un, il y a quelque chose un peu qui s'emballe et t'as l'impression qu'en fait ça va jamais s'arrêter. Et c'est ce qu'elle m'a demandé de représenter en musique. Et en même temps, en fait, on a joué justement avec cette flûte qui continue elle à jouer derrière.
très jolie, cette rencontre amoureuse, du coup, qui joue sur la fusion des instruments. Et il y a une figure musicale qu'on peut évoquer, qui est l'ostinato. Donc, c'est cette figure presque obsessionnelle hein, du violon qui tourne, qui est beaucoup utilisée au cinéma. L'ostinato, donc c'est cette boucle, en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup l'un et l'autre, j'imagine.
Un tout petit truc avant pour rebondir sur un sujet qu'on a abordé. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, les violons, jusqu'au moment où il y a le titre qui s'affiche, ce ne sont pas des vrais violons, c'est des violons virtuels. Et à partir du moment où il y a le titre, là, on passe sur les vrais violons que j'ai enregistrés. Voilà, c'était un des moments qu'elle voulait, par exemple, garder en virtuel.
Ah, c'est joli. L'évolution également là-dessus. Ouais.
Oui, complètement. Et oui, donc il y a eu cette boucle-là dont tu parles, c'est vrai, l'ostinato. Et là, pour le coup, c'est parce qu'on... On parle vraiment d'un sentiment, donc quelque chose de très profond, de très ancré, qui est plus sur un sens, sur quelque chose, voilà, qu'on ressent. Et puis en plus, on verra plus tard que le personnage est aussi hanté par ce qu'il appelle les fantômes qu'il a vus depuis son enfance et qui le hante. Donc il y a toujours cette idée de quelque chose qui se répète dans ce film.
Et Erwan, l'ostinato, par exemple.
Pour rebondir sur l'ostinato, c'est un outil qui est très précieux parce que ça permet d'installer un moteur rythmique. Et de développer des choses par-dessus. Donc d'installer quelque chose qui attrape le spectateur, et le moment où on lâchera l'ostinato, ce sera un moment très significatif. Forcément, ça crée un mouvement qui se met en marche, et le moment où on l'arrête, ça crée forcément quelque chose. Le moment où ça commence, et aussi, et ça permet d'avoir quelque chose de comme ça, ce moteur rythmique, et de pouvoir développer quelque chose dessus de l'ordre plus émotionnel comme un thème ou des choses qui arrivent des vagues de cuivre qui arrivent successivement, mais tout en gardant cette chose verrouillée derrière. Je sais pas pourquoi je pense à John Williams, mais sur Duel of the Fate dans Star Wars épisode 1, il a cet ostinato qui fait tan 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 tan, et là c'est pendant le combat final entre les à partir du moment où le combat commence, c'est parti. Et il nous lâche pas jusqu'à la fin. Il y a ce truc, il y a un thème qui se développe dessus. Et c'est un énorme crescendo de, ça va faire 5 minutes, avec toujours cet ostinato qui nous lâche pas. Et qui grossit, et qui grossit, et qui grossit. C'est un outil vraiment très, très précieux pour les compositeurs. Oui.
Et dans les westerns, le galop d'un cheval, c'est un ostinato.
Oui, carrément.
Qui peut être repris après en musique. Le temps avance. Il y aura quelques petites questions, si vous réfléchissez-y. Peut-être avant, je propose, en plus, c'est enregistré à la radio, de diffuser un extrait chacun qui se déploie dans la durée, notamment donc le générique de fin, qui permet donc comme ça d'apprécier votre musique. On va commencer avec Lisa Chevalier, La beauté du geste. Voilà, bravo, La beauté du geste, musique de Lisa Chevalier. Et pour Erwan Chandon, il y a l'embarras du choix, parce qu'il y a La dernière vie de Simon également, qui est très belle, mais regardons pour l'actualité Chasse gardée.
Roger. Moshe! Moshe!
Ah, ça va, c'est de la chevrotine, y'a rien de grave.
Oh, Moshe! Oh, Moshe!
De toute façon, je pouvais pas vous laisser tuer Moshe.
Mais vous avez appelé le sanglier Moshe! Vous êtes complètement taré!
Ça va aller, jeune homme? Vous allez voir.
J'ai des dingues ici.
J'annule l'achat! Yes! Et vous, vous pouvez dire au revoir à votre permis de chasse.
Ben, j'ai fait mon choix.
Ah,
faites-lui une compresse de thym avec du vinaigre de cidre. Vous verrez, c'est sourd. Hein. Oh, pas de route.
J'ai mal, bébé. Ah, ils m'ont fait le fion, les cons. Ah.
On l'a fait.
Bienvenue chez nous, mon amour. Ouf.
C'était pas exactement ce que je voulais, mais on a la fin du film. Non, dans mon fichier, j'ai marqué fin et je croyais que c'était le générique pour faire avec la beauté du geste deux génériques, mais j'ai eu vos rires et ça me va. Alors, vos questions, voilà, vous avez sûrement plein de questions à poser à Erwan Chandon et Elisa Chevalier. Oui.
Vous êtes toujours en direct de Générique sur Radio G.
Ah oui, comment éviter?
Il y a des questions.
Comment éviter le plagiat?
Public qui n'ont pas de.
Alors, c'est vrai que quand on écrit, on ne fait pas. Enfin. Moi, j'écris très peu en prenant de référence. J'aime bien justement avoir cette page blanche et écrire. Mais c'est vrai que des fois, c'est au-delà de nous. Ça peut arriver d'écrire, d'avoir une idée de thème, par exemple. Je sais pas pour toi, mais avant d'écrire un thème mélodique, je vais beaucoup le chanter. Je vais beaucoup l'avoir en tête pendant toute la journée. Je vais essayer de me le rappeler, de voir jusqu'au moment où voilà, il me semble bien. Et parfois, en fait, on peut tomber sur des mêmes débuts qu'un autre thème en fait qui nous a nourri, mais on s'en est même pas rendu compte. Et souvent, ça va plutôt être quelqu'un de l'extérieur, je pense, qui va nous le faire réaliser. Oui, je sais pas si t'as quelque chose toi à rajouter.
Oui, en effet, faut rester hyper vigilant parce que les formules mélodiques, elles sont pas infinies non plus. Enfin, si, ben, c'est vaste, mais pas infini. Et en effet, on est tous pétris de plein de références, souvent un peu les mêmes. Et il faut s'y reprendre à deux fois. Une fois, quand une mélodie nous pop dans la tête, et oui, il faut être vigilant pour. Ça m'est arrivé là, il y a un mois. Pour un film dont la musique de référence était la série des Kingsman. C'est des films d'action avec un thème assez prononcé. Donc j'ai beaucoup écouté ces musiques pour essayer justement d'en extraire l'essence sans citer la mélodie, mais comprendre harmoniquement comment ça se passe orchestralement. Donc j'ai imaginé un thème qui évoque la même sensation, mais qui n'est pas du tout la même formule mélodique, et la personne qui bosse dans le studio d'à côté, on sort fumer une clope, bref, et il me dit mais il est vraiment super ce thème de Kingsman. Tu parles de quoi, ce que t'écoutais là? Mais ça c'est mon thème. Ah ouais, mais t'es sûr que c'est pas le thème de Kingsman? Je vais faire écouter le thème de Kingsman. Alors, en effet, ça a rien à voir, sauf que c'est le même ADN. Et alors j'ai toujours un petit doute, hein, parce que j'ai fait écouter à ma copine, elle a dit non, ce thème existe, c'est sûr, ce thème existe. Donc je l'ai renvoyé à 5 ou 6 potes compositeurs, j'ai dit dites-moi si ce thème existe. Et ils m'ont dit non, ça n'existe pas. Par contre, en effet, on a l'impression que ça existe. Alors si c'est vraiment ça, peut-être que ça existe vraiment, je sais pas.
Et je crois qu'il y a des experts à la SACEM qui permettent de juger et de valider ou pas, parce qu'il y a des, parfois il y a des plaintes. Donc pour se protéger, en fait, il y a un bureau à la SACEM avec des experts là-dessus.
Mais alors, s'il s'avère que ce thème n'existe pas et que tout le monde a l'impression qu'il existe, ouais, c'est gagné, quoi.
C'est vrai. Ouais. Question ? Oui.
Une nouvelle question sur les thématiques de. Qu'on peut avoir en tête et.
Ah oui, ça arrive d'écrire des thèmes, même s'il n'y a pas forcément de suite, voilà, l'opportunité d'utiliser ou quoi, mais d'en garder. Après, moi, pour ma part, j'ai jamais utilisé un thème que j'avais écrit comme ça, à part. Je trouve que quand il y a un film, en fait, ça demande tellement une identité particulière et personnelle qu'à chaque fois, j'ai beaucoup de mal, en fait, à prendre quelque chose que j'ai déjà écrit et à essayer de le coller. Pour moi, ça marche jamais parce que le film demande à lui-même beaucoup de réflexion, voilà, beaucoup de maturation aussi et je repars tout le temps de zéro à chaque fois. Finalement, j'ai des thèmes, mais je les utilise pas.
Exactement pareil.
Une question de la présidente du jury, Véronique Augereau, qui pose une question l'intelligence artificielle et la peur de la création musicale par l'IA.
Sujet, c'est vrai que en fait, d'un côté, au fond de moi, je me dis. Ça sert à rien d'avoir peur parce que c'est l'évolution, c'est comme ça, ça arrive. Il y a eu beaucoup de nouveautés technologiques qui sont arrivées. Après, bien sûr, ce qui fait peur, c'est les débordements, c'est le fait que ce soit pas cadré, qu'il n'y ait pas de règles, voilà. Et ça, malheureusement, ça met du temps à se mettre en place. Donc, je pense que le moment dangereux, c'est entre le moment où on est en plein dedans et le moment où ça va vraiment se mettre en place. Après, je pense que ça peut être en fait utilisé comme un outil de création. Ça peut être approprié par un compositeur. Il y en a qui ont fait ça, Sky G par exemple, l'album, où c'est un compositeur qui a vraiment utilisé une intelligence artificielle comme outil. Donc pourquoi pas si ça peut donner à des idées créatives. Mais oui, effectivement, je pense que ce qui fait peur, c'est plus les règles en fait. Il faut vraiment mettre des limites et que ce soit cadré. Et tout.
Je pense que ça va. J'en sais rien, bien sûr, mais je pense que l'évolution va dépendre des différents types de médias pour lesquels la musique est utilisée. Par exemple, il y a déjà un phénomène qui est la musique de librairie. C'est des librairies qui sont en ligne pour lesquelles plein de compositeurs composent plein d'albums et notamment pour le documentaire. Souvent, les réalisateurs ou les monteurs vont piocher dans ces morceaux-là. C'est pas de la musique originale, c'est des musiques qui sont collées comme ça sur le documentaire. Je pense que l'IA peut remplacer ce genre de truc, ce genre de procédé. Mais attention, je crache pas dans la soupe, j'en ai fait de la librairie, c'est très bien. Mais ça peut remplacer des médias pour lesquels la musique a pas non plus une importance fondamentale. Attention, je dénigre pas le documentaire, mais c'est peut-être moins important que une identité musicale d'un long métrage ou d'une série. Et je pense qu'il y aura toujours de la place pour l'humain. Tout ce dont on parle depuis une heure et demie là, les choix des réalisateurs, les envies, les corrections, les V1, V2, V15, où le compositeur est amené à modifier une note, deux notes pour atteindre la sensation parfaite. Je pense que l'IA pourrait pas remplacer ça.
Ouais.
J'espère.
et surtout qu'on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, de l'IA générative, mais en fait, il y a de l'IA depuis très très longtemps. Il existe des logiciels d'ailleurs qui transcrivent les partitions depuis longtemps.
Oui. Une dernière question.
Alors, dans notre cas, oui, mais bon, bien sûr, c'est pas du tout obligatoire. Chacun a son propre chemin. Le conservatoire convient pas à tout le monde. Il y a quand même. Des profils qui peuvent matcher comme ne pas matcher. Donc il faut surtout pas se dire il faut absolument passer par le conservatoire pour être compositeur de musique de film ou compositeur d'ailleurs en général. Voilà, c'est pas du tout une obligation. Nous je pense qu'on l'a fait parce qu'on cherchait aussi des outils, on cherchait des choses, on venait chercher en fait des réponses peut-être ou développer quelque chose mais on peut le trouver de d'autres manières, ça dépend aussi du style.
C'est clair, là, dans la musique de film, il y a vraiment tous les profils possibles et imaginables, des gens qui viennent de la musique, de la variété. C'est souvent que, d'ailleurs, qu'on voit des artistes de variété qui sont amenés, à qui on demande de composer des musiques de film, qui n'ont pas forcément de culture de conservatoire, culture classique, et qui ont une super sensibilité et qui vont faire une musique de film magnifique. Le solfège, c'est un gros sujet pour moi parce que je pense que je garderai à vie une espèce de syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas du tout grandi avec le solfège. J'ai commencé la batterie à 6 ans avec le solfège et j'ai très vite arrêté parce que j'ai dit à mes parents, j'aime pas le solfège, j'aime bien la batterie, mais j'aime pas le solfège. Donc ils ont été un peu trop gentils à mon goût, avec le recul. Ils ont dit, arrête le solfège, continue la batterie, voilà, fais ta vie, fais ton chemin. Et comme tu disais, le moment où je suis revenu au conservatoire, c'est parce que j'en avais besoin. Parce que j'avais envie que ma musique soit jouée par des interprètes et bah, le seul moyen, c'était de leur écrire la musique. Et je savais pas le faire. Donc il a fallu apprendre, mais je savais pourquoi j'y allais. Et ça change tout. J'ai rattrapé mon retard parce que j'en avais très 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 envie. Et alors qu'à 6 ans, je savais pas pourquoi on m'apprenait à écrire la musique.
Alors Erwan, je voulais pas te couper, mais on me dit dans l'oreillette depuis 2 minutes qu'il faut arrêter le programme radio. Mais pardon. Vous pourrez totalement échanger en off dans un instant avec Erwan et Lisa. Merci Erwan Chandon, Lisa Chevalier, d'avoir témoigné avec générosité de votre travail.
Merci à vous. Merci à toi.
La table ronde de chant contre chant, une exclusivité de générique.
Et voilà, c'était donc la table ronde
oui,
en direct.
Très très belle table ronde. Hein.
Effectivement, très intéressant.
Très très intéressante.
Bien entendu, on a appris beaucoup beaucoup de choses sur la méthodologie de composition entre autres. Et on a vu, nous, on a eu l'exclusivité de voir des images
exactement,
qui allaient avec.
Exactement, tout à fait David.
Donc, si d'aventure les auditeurs un jour voudraient retrouver ce genre de comportement, bah, évidemment, il faudra participer à la prochaine
édition du festival.
Festival,
effectivement,
voilà,
on va renouveler l'expérience et en 2025, il y aura une deuxième édition déjà du festival. On peut déjà vous l'annoncer sur les antennes de Radio G.